dit résigné.
Mais qui a mis le papier d'alu ? Bonjour, je suis Louis Mars, la journée internationale du droit des femmes. Un jour comme un autre pour aller au charbon ? Pas tout à fait. Aujourd'hui, grâce à moi, le comité d'entreprise prépare une petite surprise pour son personnel féminin. Une prime de pénibilité ? L'ouverture d'une crèche pour les enfants des couples 3-8 ? La reconnaissance des maladies professionnelles ? Non, mieux encore. Grâce à l'appui des syndicats de la boîte et à la magnanimité de notre grand patron, aujourd'hui, oui, ce matin même, toutes les femmes de l'usine, enfin les contractualisées, recevront un petit ballot de chocolat enrobé par nos soins. Alors, ça la fait passer la pilule ? Tu sens comme le doux arôme du cacao te permet déjà d'oublier les blagues sexistes de tes collègues ? Les remarques sur ton poids ? Le regard insistant de ton chef d'équipe quand tu enlèves ta blouse à la pause déjeuner ? Qui pourrait refuser une petite douceur dans ce monde d'acier ? Et puis soyons raisonnables, le chocolat, c'est moins cher que l'égalité des salaires.
Selon l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, les enquêteurs seraient sur une nouvelle piste, celle d'un Français d'origine tunisienne, déjà connu des services de police et embauché 5 jours plus tôt à l'usine.
Roland Card est un homme en colère. Il n'admet pas que son beau-frère, tué dans l'explosion de l'usine AZF, soit désigné par certains médias comme un militant islamiste, donc un suspect en puissance.
On a la haine, franchement, ouais. La haine de voir que... Parce qu'il est mort, hein. Alors si on ne prend pas ses patins, personne ne le fera. Alors il est mort, en plus il était bien noir, quoi. On s'est dit, bon, mais celui-là, il va porter le chapeau. Et ça, c'est dégueulasse.
C'est à la Rainerie, au cœur de ce quartier populaire, dans la mosquée Salam, qu'Hassan Jandoubi est censé avoir été recruté. Problème, personne ne l'a jamais vu, ni ici, ni dans les autres lieux de prière, à Toulouse ou dans la région. Plutôt bon vivant, le jeune homme n'était d'ailleurs fiché par aucun service de renseignement. C'est la découverte de son corps dans les décombres de l'usine AZF qui a déclenché la curiosité des policiers. L'intérimaire portait 4 sous-vêtements et 2 pantalons, une bizarrerie vestimentaire que certains ont rapprochée de la tenue des kamikazes islamistes.
Non, Hassan n'était pas un intégriste religieux et s'il portait plusieurs épaisseurs de vêtements, c'est parce qu'il était complexé par sa maigreur. Pendant ce temps, à la mosquée Salem, une conférence de presse est organisée pour dénoncer la campagne de diffamation à l'encontre des musulmans et d'Hassan Jandoubi.
On a essayé de tuer cette personne une deuxième fois, avec ce rite d'humiliation qu'on fait à sa famille. C'est quelqu'un de marié, et ça c'est un peu lamentable. Et c'est lamentable qu'on arrive à un certain stade que sa famille, sa copine ou sa femme, commence à dire que non, il boit de l'alcool, il mange du cochon pour pouvoir montrer qu'il n'est pas intégriste. C'est un peu lamentable.
Eh bien oui, c'était les fois en 2001. Et maintenant nous allons passer à une question plus proche des guerres coloniales. Attention, tenez-vous prêts, ça va commencer. Quel minerai abondamment présent au Congo-Kinshasa est un jeu majeur de la guerre qui secoue le pays depuis plus de 20 ans. 3 possibilités. Le beryllium utilisé dans la technologie des réacteurs et dans l'industrie nucléaire, choix numéro 1. Choix numéro 2, le cobalt, le coltan, un minerai qui entre dans la fabrication des téléphones portables. Choix numéro 3, le tantal, classé comme un des minéraux les plus recherchés dans la construction des roquettes et des avions.
Numéro 3.
Une autre réponse, cette réponse est bonne. Y a-t-il une autre réponse ?
C'est bonne, t'as dit.
Le 1, cette réponse est également bonne. Et le 2 également. Bravo les 3. Les 3 étaient la bonne réponse. Mais on pourrait aussi parler du nickel, de l'indium, du lithium et des dizaines d'autres minerais.
La République démocratique du Congo est dotée d'une abondance de ressources minérales rares du nord-est et au sud-est du pays. Une petite question, juste prix. Vous êtes prêts pour le juste prix?
Oui.
Ah, quand même. Nous sommes à la chapelle, à Toulouse. Alors, combien de militaires français sont morts en opération depuis 1963?
687.
687.
Bien, un peu moins.
520.
Un peu plus.
610. 610, c'est dit.
Un peu plus. Alors, 612. Ça bouge. Eh bien non, il s'agissait de 627 militaires morts dans les guerres depuis 1963. Je suis né en 61, vous pouvez imaginer la durée. Ça ne fait pas beaucoup, quoi. Ça n'est pas beaucoup, finalement. Hein. Les risques du métier chez les militaires français n'est pas très, très important. Alors, une autre question juste prix. Combien de morts ont causé depuis 1990 les guerres des États-Unis et la dite guerre contre le terrorisme?
5.
Combien les États-Unis ont fait combien de morts hein, depuis 1990 dans les guerres?
400 000.
Hein, on se rapproche. La réponse était difficile de répondre avec certitude. Mais si on fait une addition, la première guerre du Golfe en
91.
Bien, en 1991 a fait 200 000 morts en Irak. Sanctions brutales contre l'Irak entre 1993 et 2001, 1 700 000 morts en Irak. Guerre contre le terrorisme de 2001 à 2014, 1 300 000 morts, dont 1 million de morts en Irak. 220 000 en Afghanistan, c'est une estimation basse, d'autres sont bien plus importantes. 80 000 au Pakistan, Yémen et autres pays non étudiés. Donc environ 3 millions de morts. La question subsidiaire est, pour quelle... j'ai une question, mais sans réponse, on m'a donné des fiches. Ça ne va pas du tout, je vous pose une autre question. Dans combien d'opérations extérieures la France est-elle impliquée depuis 2000? Combien d'opérations extérieures pour la France?
8, c'est 8 d'un côté, 12 de l'autre.
21.
18.
15. 20, 49.
Eh bien non, ça sera 13. Alors attention, non, je me trompe, c'est-à-dire 13 en solo, rien que la France. 6 avec d'autres pays européens. 4 avec l'OTAN. 12 avec l'ONU. Cela fait 35 conflits ouverts pour la France. Je rappelle que nous sommes les quatrièmes exportateurs d'armes au monde. Il faut bien les utiliser.
Ah.
Eh bien oui, un candidat nous dit directement du producteur au consommateur. Non, monsieur, aucune amap pour l'armement. Donc, une question. Depuis quand nous ne sommes pas encore à la super banquette. Hein. Donc c'est une question assez facile. Depuis quand la France est-elle en guerre?
Toujours.
Depuis toujours.
Depuis toujours, c'est-à-dire. C'est quand toujours?
François Ier.
Clovis. Effectivement, je pense que la personne qui a fait l'affiche s'est légèrement trompée, car il est dit quasiment en continu depuis 1945. Donc on occulte un peu, voilà.
1942.
Oui, surtout si on inclut des différentes opérations extérieures qui relèvent parfois de la police. Ah si, une question assez facile. Alors, ça c'est pour le rattrapage. Où ont été pratiqués les premiers essais nucléaires français?
Muroa, d'un côté Algérie.
En Algérie. L'année 50?
Quelle année?
Eh bien non, alors que la France était censée être partie d'Algérie.
63.
C'est en 62. Dans la partie algérienne du désert du Sahara à Reagan, et même après l'indépendance, c'est en effet une des causes des clauses de l'accord passé entre le FLN et la France. Merci, la France. Eh bien, à partir de 1966, les essais nucléaires ont été réalisés dans une autre colonie française que vous avez citée, et c'était là. Polynésie. Bon, mais ce sera, je pense, notre dernière question. Bravo. 5 avril 2010. Moncol, États-Unis, industrie minière. Un coup de grisou dans une mine de charbon cause la mort de 29 ouvriers.
7 avril 2010. Genevilliers, France, activité chimique. L'usine Carbone Lorraine, spécialisée dans la fabrication du graphite, explose suite à un incendie en pleine nuit, faisant un mort et 12 blessés.
20 avril 2010, Golfe du Mexique, industrie pétrolière. La plateforme pétrolière Deepwater Horizon coule au large de la Louisiane, provoquant une des plus graves marées noires de l'histoire. 11 ouvriers sont tués dans la catastrophe.
4 octobre 2010. Aïka, Hongrie, industrie métallurgique. Suite à la rupture d'un réservoir dans une usine d'aluminium, des centaines de milliers de mètres cubes de boue rouge toxique se répandent sur plus de 40 km² avant d'atteindre le Danube.
19 novembre 2010. Greymouth, Nouvelle-Zélande, industrie minière. Une explosion dans la mine de charbon entraîne la mort de 29 personnes.
Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou sur canalsud.net. Nous sommes toujours à la chapelle. On y est depuis 10h17, croyez-le si vous voulez. Et on est encore là pour au moins 3h. C'est la grande émission de cette semaine, Quand votre ville fait boum. Et un nouvel invité, un nouveau plateau avec toi, Mathieu. Salut.
Salut.
Mathieu de l'association Survie. Donc Survie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association, pour le dire vite, qui dénonce la France-Afrique, hein, c'est-à-dire toutes les formes d'intervention néocoloniale en Afrique, et qui milite pour une refonte de la politique étrangère, hein, de la France en Afrique. Tu me fais un petit signe de la main, tu veux préciser peut-être ?
On milite contre la France-Afrique, ça suffit, je pense.
Ouais, ouais, voilà, ok. Ouais. On va parler de tout ça. Survie, mais tu animes aussi une émission sur Canal Sud ?
Tout à fait, Décolonisons, c'est un mardi par mois à 20h, et la prochaine c'est mardi prochain, on consacrera au Gabon et aux luttes qu'il y a en ce moment contre le régime gabonais.
Donc mardi prochain, 27 septembre. Voilà. Alors avec toi Mathieu, on va ouvrir un autre volet consacré à industrie et guerre. Ce sera le dernier avant d'attaquer le thème de l'urbanisme. Et on va s'intéresser spécifiquement aux guerres coloniales. Alors, pour ceux qui en doutaient, on en a parlé tout à l'heure, la France est en guerre, hein, et pas seulement depuis les attentats de 2015. C'est un pays qui mène des guerres à travers le monde, alors Afghanistan, on peut parler aussi de l'Irak et de la Syrie en ce moment, hein, sur le territoire occupé par l'organisation État islamique. Mais le premier territoire, et de loin, où la France engage son armée, c'est le continent africain. Depuis les indépendances du début des années 60, la France a lancé au moins, hein, à la louche comme on disait tout à l'heure, a lancé au moins 60 opérations militaires sur le sol français. Ça c'est le
africain.
Chiffre sur le sol africain, pardon, sur le sol africain. Et ça c'est le chiffre officiel. Donc on ne parle pas.
C'est un beau lapsus par ailleurs. Mais...
On ne parle même pas donc des interventions plus ou moins secrètes. On ne parle pas des barbouzeries de mercenaires à la solde de la France façon Bob Denard. Alors on peut citer rien que pour des guerres, des conflits récents, la Côte d'Ivoire, la Libye, le Mali, la Centrafrique. Ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est d'où vient cet acharnement guerrier de notre pays vis-à-vis de l'Afrique. son précaré, hein, comme on l'entend souvent, une expression souvent usitée, vis-à-vis de ses anciennes colonies, mais pas seulement. Et on va essayer de voir à quel point cette obstination a à voir avec le sujet du jour, c'est-à-dire avec l'industrie, et particulièrement, évidemment, avec l'industrie de l'armement. Dans ce domaine, comme dans les autres, il est bon de le rappeler, ce n'est pas l'Afrique qui a besoin de la France, mais bien la France qui a besoin de l'Afrique. L'Afrique est omniprésente dans la conduite des affaires françaises, et ce dans tout le sens du mot affaires, hein, politique et business, même si elle est rarement nommée. Alors on en a eu une belle illustration cette semaine. Ce 21 septembre sur France 2, ce n'est pas le 15e anniversaire de l'explosion d'AZF qui ouvrait le journal télévisé de 20h, mais ceci.
Bienvenue à tous. Une commande de 7 à 8 milliards d'euros. C'est un nouveau succès donc pour la France et pour son industrie d'armement. L'Inde a entériné le contrat. Jean-Yves Le Drian le signera après-demain à New Delhi.
C'est le plus gros contrat d'exportation jamais signé par Dassault Aviation. L'Inde confirme l'achat de 36 Rafales pour un montant de 7 milliards 870 millions d'euros. La bonne nouvelle est parvenue il y a quelques minutes aux employés de l'usine d'assemblage de Mérignac.
Ça va nous donner du boulot.
Pour Dassault, pour les sous-traitants, pour les personnes qui travaillent, voilà. C'est très très bien.
Cette vente s'ajoute aux deux précédentes conclues l'an dernier. 24 Rafales vendues au Qatar, 24 autres à l'Égypte. Longtemps boudé à l'export, le Rafale est donc aujourd'hui au cœur d'une vente historique.
Le Rafale est bien un avion 100% français conçu et fabriqué en France, à l'exception de quelques pièces qui sont achetées aux États-Unis pour des questions de coût. Son constructeur, on le connaît, c'est Dassault Aviation, qui sous-traite également à 500 PME qui sont réparties sur tout le territoire.
Cocorico donc, hein, la France vend des Rafales, elle en vend à l'appel. Alors, on ne parle pas du tout d'Afrique dans ce petit extrait du journal télévisé de mercredi dernier. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on démarre cette partie consacrée aux guerres coloniales par ce document ? Quel rapport entre cette vente à l'Inde et la France-Afrique ?
Bah alors là, on n'entend pas dans l'extrait à la télé, mais par contre, si vous avez lu la presse sur ce sujet-là, ce qui était rappelé systématiquement, c'était que, ô combien, le Rafale avait été efficace et avait fait preuve de son efficacité dans les guerres au Mali et en Libye. Et véritablement, dès le début, en fait, sur le contrat, notamment avec le Qatar, ça a été flagrant. Ces guerres ont servi de démonstration grandeur nature et d'argument commercial pour emporter ces marchés de vente de Rafales. Et à tel point que, par exemple, la guerre au Mali s'est déclarée le 11 janvier 2013. Le 15 janvier, Hollande était au Qatar et annonçait des négociations pour la vente de ces Rafales. Avec une citation.
Ah bah écoute, la citation, je peux la donner. Elle a été rapportée par le Canard Enchaîné. Donc on est le 14 janvier 2013. Donc tu l'as dit, le conflit au Mali vient de démarrer. Et il s'adresse à des pilotes mobilisables, hein, donc des pilotes du fameux Rafale. Et on est à la base militaire d'Abu Dhabi, la base française militaire d'Abu Dhabi. Et Hollande dit: il se peut qu'on ait besoin de vos Rafales au Mali. Viens donc. Il faudra leur montrer toutes les qualités du Rafale, c'est un élément très important de votre mission, dit-il au pilote, montrer que les matériels français sont les plus performants. Merci pour votre double mission, à la fois opérationnelle et, j'allais dire, commerciale. Il a tout dit.
Oui, bah, tout à fait. Tu l'as dit, en fait, depuis les indépendances, on compte au moins 60 opérations de la France en Afrique, qui sont dans ces anciennes colonies pour la plupart. Ce qui fait sert plusieurs objectifs, mais notamment celui de faire la démonstration des armements français, parce que en fait peut-être c'est un des liens forts entre ce qui nous rassemble pendant ces journées sur l'industrie, notamment de l'armement, et les guerres de la France en Afrique. C'est que le premier client de l'industrie de l'armement, c'est l'armée française. Dans des proportions énormes. En 2012, il y avait à peu près 40 milliards de budget de défense pour l'armée française, dont 16 milliards d'équipements, ce qui est bien. Donc la plupart de cet équipement est acheté à des entreprises françaises et c'est bien supérieur à ce que la France vend à l'étranger. On a raison de parler de ce que la France vend à l'extérieur, ce qui est énorme, c'est à la place, je crois que récemment elle a réussi même à être deuxième et la plupart du temps à peu près quatrième vendeuse d'armes dans le monde, mais le premier acheteur c'est à l'intérieur en fait. Et l'armée française a ce double intérêt, c'est-à-dire que d'une part elle fait la démonstration de ses matériels en faisant des guerres, ce qui permet de vendre après ce matériel à l'étranger, mais aussi, pour elle, c'est un intérêt pour, au sein de l'état-major français, afin de garder leur budget.
Oui, alors explique-nous ça, oui, effectivement. C'est qu'il y a un intérêt pour l'armée à dépenser chaque année la totalité du budget dont elle dispose.
Et à le dépasser largement, notamment dans les opérations extérieures. Au niveau, le Mali, pour ça, c'est un super bon exemple, parce que c'était à une époque où, comme aujourd'hui, on parlait d'austérité. Normalement, l'austérité concerne à peu près tous les domaines. Et les militaires étaient particulièrement inquiets de la baisse des budgets d'armement, enfin de leur budget, du budget de défense, qui devait avoir lieu. Avec l'opération au Mali, on a vu tout un tas de documents, de prises de parole dans les médias de la part de hauts gradés français pour dire « Vous voyez, si on avait baissé les budgets de défense, on n'aurait pas été capable de faire cette guerre. » Et ça a servi notamment donc, à maintenir à peu près au niveau qui était prévu les budgets de défense pour les années à venir, quoi. Donc ça, du point de vue en plus de l'armée elle-même, de faire des guerres, il y a à peu près, sur les opérations extérieures, en plus ils font des surdépenses, c'est-à-dire à peu près 1-2 milliards d'euros qui sont consacrés aux guerres, aux opérations extérieures. Aujourd'hui on dit plus tellement guerre, hein, d'ailleurs dans le verbiage on dit opérations extérieures.
Oui, c'est plus propre. Hein.
Ouais, c'est un léger euphémisme, mais qui par ailleurs indique bien quelque chose, c'est qu'aujourd'hui la France, comme d'autres puissances impérialistes, a une supériorité technologique surtout. Qui fait que, de toute façon, ça aurait pas de sens de parler de guerre. La symétrie étant telle que voilà, elle écrase technologiquement ses adversaires, entre guillemets, quoi. Et voilà, ce qui, en plus, est un trait... on en parlait en préparant l'émission, c'est les bases même de la colonisation. La colonisation, elle s'est faite avant tout par supériorité militaire au niveau technique. C'était la politique de la canonnière, c'est-à-dire un bateau blindé avec des canons qui est capable de tenir tête à des armées qui ont une différence importante d'équipement. Et c'est comme ça que la colonisation s'est faite, c'est par les armes et par la supériorité technique des armes. Et aujourd'hui, la France, la recherche en armement, la production d'armement permet encore à la France et comme à d'autres pays impérialistes de maintenir cette supériorité, cette domination physique. Dans ces guerres, donc en particulier en Afrique pour la France, quoi.
D'accord, ce rapport de force asymétrique perdure. Hein. Mm. Voilà. Donc oui, on comprend bien que la France, quand elle fait la guerre en Afrique, ça lui sert de vitrine, ça lui permet de faire tourner l'industrie nationale, hein, dont elle est la première consommatrice, et puis ça lui permet... je me suis perdu...
D'asseoir, en fait, son rang de puissance, c'est-à-dire que si la France aujourd'hui est une grande puissance, c'est parce qu'elle continue de dominer l'Afrique.
Alors oui, donc, oui, moi je voulais parler, oui, et ça garantissait aussi son budget pour l'année prochaine. Parce que oui, le budget, oui. Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le budget chaque année est reconduit selon les dépenses de l'année d'avant. Hein. Il y a cette histoire-là aussi pour l'armée. Mais oui, donc là tu enchaînes aussi sur cette chose importante, c'est que la France a besoin de l'Afrique. Et si la France est un pays peut-être un peu plus puissant, on va dire, sur la scène mondiale, et notamment dans des institutions telles que l'ONU, c'est parce qu'elle a un certain nombre d'États vassaux à ses côtés, donc les États africains. Est-ce que donc, tu peux développer un petit peu ce sujet-là?
Ouais, donc bah, nous, ce qu'on fait à Survie, collectivement, c'est étudier ce qu'on va appeler la France-Afrique. Donc on peut rapidement dire que c'est le système de domination sous plein d'aspects de la France sur ses anciennes colonies en Afrique. Donc là, on parle beaucoup de l'aspect militaire, mais il y a aussi les aspects économiques, avec des entreprises qui ont des quasi-monopoles dans les anciennes colonies, un aspect culturel avec la francophonie, un aspect monétaire avec le franc CFA, la monnaie des pays africains et entre les mains politiques de la France, qui a une minorité de blocage dans toutes les banques centrales qui gèrent cette monnaie. C'est aussi au niveau diplomatique où, en fait, elle soutient diplomatiquement, mais aussi des fois militairement, des régimes en place qui sont des régimes amis, en fait, pour les élites françaises. Donc on a eu récemment, en 2008, par exemple, Idriss Déby, président du Tchad, qui a failli être renversé par une rébellion armée. Les mirages français ont sauvé le régime d'Idriss Déby en bombardant les colonnes de pick-up qui arrivaient sur le palais présidentiel. Donc il y a tout ce système qui fait à la fin, d'une part, que la France peut accéder aux ressources de ces pays-là de manière préférentielle. Ça s'est prévu dans des accords depuis les indépendances. Qui fait que quand elle propose un vote à l'ONU, il y a tout ce cortège d'États vassaux qui votent avec elle comme un seul homme. Et puis, de manière générale, enfin, c'est le propre de tous les impérialismes. Et, pour les États-Unis, c'est flagrant, mais c'est valable aussi pour la France. Cette puissance, elle s'assoit sur une domination militaire des pays. Quoi.
Oui, c'est la base.
Voilà.
On va s'écouter un petit son. Faire une petite respiration avant de reprendre. C'est un extrait d'un album de 2010 du rappeur sénégalais Didier Awadi. L'album s'appelle Président d'Afrique. On ne l'entend pas sur cet extrait-là, c'est la voix de Norbert Zongo qu'on entend, journaliste burkinabé assassiné en 1998. C'était un grand opposant à Blaise Compaoré au Burkina et donc forcément à la France-Afrique.
On ne libère pas un homme se libère. Un esclavagiste ne devient pas libertin du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France peut dire « Allez-y, vous êtes libre ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France veut notre bien. Ce n'est pas vrai. Et elle a raison parce que notre situation actuelle profite à ses intérêts. C'est humain. Notre bonheur ne peut pas venir de ceux qui ont profité de notre esclavage, de ceux qui ont profité de notre état de dépendance. Ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi j'ai écrit, chaque fois que la France dit quelqu'un est bien, cette personne est bien pour la France. Mais c'est clair là, c'est humain. Si vous défendez les intérêts de la France couronne. Maintenant, est-ce que vous défendez vos propres intérêts à vous? Ça, c'est autre chose. Est-ce que vous défendez les intérêts de votre peuple? C'est autre chose. Dès que vous défendez les intérêts de la France, elle est en droit de faire de vous académicien, pape, machin, tout ça. C'est son droit. Il faut pas se leurrer. Il faut être clair. On dit en politique, les amitiés, les relations les plus bonnes se perdent dans l'intérêt comme le fleuve se jette dans la mer. C'est comme ça en politique. C'est une question d'intérêt. C'est pas une question d'amitié, on n'aime personne. Nous sommes tous noirs. Tu as beau te maquiller, devenir cuisant. C'est pas ça. Ça ne change rien aux yeux des Français. Tu es un noir, tu es un colonisé, c'est tout. Et si tu défends leurs intérêts, ils te supportent. Point. C'est pas plus compliqué là. Aujourd'hui, elle est là pour dire la francophonie, la maçonnerie, la machin. C'est des histoires, c'est une question d'intérêt. Personne ne nous donnera la liberté, personne ne nous donnera l'indépendance. Le voleur qui vous vole a raison, c'est vous qui avez tort de vous laisser voler. C'est bon.
Voilà, c'était la voix de Norbert Zongo. On est toujours à la chapelle sur cette journée spéciale consacrée à l'industrie et on aborde les rapports de l'industrie et de la guerre et particulièrement des guerres coloniales. Tu as parlé, Mathieu, tout à l'heure du Tchad. Tu as dit comment la France était venue au secours de son président Idriss Déby il y a quelques années. Le Tchad, c'est un partenaire particulier dans le système France-Africain, car si la France fait la guerre en Afrique, ce n'est pas le cas des pays africains qui souvent ne sont pas en guerre, en tout cas pas en guerre extérieure, mais ce n'est pas le cas du Tchad. C'est un peu spécial, la situation du Tchad.
Ouais, le Tchad, on a vu au Mali notamment, c'était à peu près la seule armée déployée un peu en masse après l'armée française, qui a eu d'ailleurs plus de pertes que l'armée française. Et c'est une spécificité parce que la plupart des régimes france-africains avec qui la France coopère, enfin qu'elle gère, ont plutôt l'habitude d'avoir une armée qui est encadrée, formée par des militaires, des gendarmes et des policiers français, contre leur propre population. Le Tchad, il fait ça aussi, mais il fait aussi la guerre à l'extérieur. Et ça, c'est un autre lien important entre l'industrie de l'armement en France et les anciennes colonies. C'est que, donc en plus des formations, on peut retrouver dans le maintien de l'ordre de ces pays-là Les mêmes grenades qui sont utilisées en France, les mêmes. Après, il y a l'usage d'armes à feu aussi dans la répression de ces pays-là, beaucoup plus souvent qu'on le voit dans d'autres pays.
C'est du matériel français, tu veux dire, oui, qui est utilisé.
En bonne partie, pas uniquement, mais ouais, en bonne partie. Donc il y a ce premier lien qui est important.
Alors attends, juste, qu'est-ce qui fait que le Tchad a cette place un peu particulière là ? Pourquoi le Tchad, lui, part au conflit, part aux côtés de la France et pas d'autres pays ? Pourquoi pas le Burkina, le Niger, j'en sais rien, le Gabon ?
C'est un peu long, mais en gros, le Tchad, c'est vraiment un État qui est... La structure première de l'État du Tchadien, c'est des groupes armés. Et en ce moment, c'est un groupe armé qui tient les rênes du pouvoir depuis un long moment. C'était déjà le cas, c'était un autre clan. Mais bon, voilà, c'est vraiment... La politique au Tchad se structure autour de ça. Et il y a une armée conséquente. Et d'ailleurs, les militaires français sont ravis de travailler avec ces gens-là, qui sont des vrais militaires, sont le E, qui vraiment n'hésitent pas à aller au front, etc.
Ils ont une vraie pratique de la guerre, du coup, on imagine.
Ouais, ouais. C'est vraiment une gestion... Enfin, l'État tchadien, c'est vraiment une gestion militaire de l'État qu'on trouve là-bas, quoi. Ce que... qui est un peu spécifique par rapport à d'autres pays.
D'accord. Alors, tu as commencé à en parler. Donc, effectivement, la plupart des autres pays mènent plutôt une guerre, on va dire, intérieure, une guerre de maintien de l'ordre, avec du matériel français, tu l'as dit.
Et de l'encadrement français, parfois, de la formation, ouais.
Oui, oui, et donc c'est notamment ce qu'on voit en ce moment au Gabon, j'imagine, ou dans les...
Oui, tout à fait. Au Gabon, en ce moment, il y a même des... Je crois que c'est un mec qui s'appelle Christophe Blu, désolé si j'écorche son nom, mais qui est conseiller spécial de la structure de sécurité qui est en ce moment en train de tuer des gens au Gabon suite à l'élection. On consacrera notre émission de mardi à ça avec des opposants gabonais.
Décolonisons, hein, donc.
Voilà, décolonisons sur Canal Sud, 92.2, nanana. Et voilà, donc je sais plus où on en était.
Alors, non, mais donc vous parlez de ces guerres intérieures. Il faut quand même les justifier, ces ouais. guerres françaises. Et c'est là qu'on va reparler un peu de cette séparation entre guerre extérieure, entre conflit extérieur et guerre intérieure, aujourd'hui a tendance à s'effacer devant un nouveau concept dont on entend beaucoup parler, mais qui concerne particulièrement l'Afrique, c'est la guerre au terrorisme.
Ouais.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette doctrine qui vient aujourd'hui justifier aux yeux du grand public les fameuses opérations, hein, plus les guerres, les opérations extérieures de la France en Afrique notamment.
Ouais. L'armée française, elle n'est jamais partie d'Afrique depuis la colonisation. Vraiment jamais. Il n'y a aucune rupture à aucun moment. Il y a peut-être le Mali à un moment où à l'indépendance a refusé la présence militaire française. Mais sinon, et du coup aujourd'hui avec la guerre au Mali, il y a de nouveau une présence militaire française. Mais sinon, à chaque fois, la France a trouvé des moyens pour vendre, pour justifier sa présence. Donc à l'imposer sans la justifier au début. Et puis après, à trouver... c'était pour défendre les intérêts du bloc de l'Ouest contre les communistes, c'était pour sécuriser les ressortissants, c'était pour français, pour empêcher des massacres qu'on disait ethniques, en oubliant tout le caractère politique. Voilà, il y a toujours eu une série de justifications qui ont permis ça.
Qui ont permis aux médias de vendre...
Et puis même aux militaires de vendre ça au sein de l'État français.
Enfin, oui, relayé par voilà. les médias aux ordres. Ouais.
Et par la suite, récemment, il y a eu... maintenant, ce qu'on va faire, on est là pour former des troupes, pour qu'elles soient opérationnelles elles-mêmes, qu'on n'ait plus besoin d'être là. Il se trouve que ça fait quand même des dizaines d'années qu'on les forme, et apparemment, apparemment cette formation ne marche pas tellement. Le dernier justificatif en date de cette présence, c'est l'antiterrorisme, prétextant que les États africains ne sont pas capables eux-mêmes de s'occuper du terrorisme, et que ce terrorisme menacerait directement la France, l'Europe... on va occuper ces pays-là, alors que le terrorisme normalement c'est censé être quelque chose de l'ordre du ressort de la police, du ressort de prérogatives intérieures pour un État. Et là, on a vraiment la France qui se déploie partout avec l'opération Barkhane, qui est une opération qui est officiellement basée dans 5 pays, de la Mauritanie au Tchad, qui regroupe toutes les anciennes opérations, celle du Mali, la présence, la base française au Tchad qui était là depuis 1986. Et maintenant, on dit tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est une nouvelle opération. En réalité, c'est les mêmes troupes qui restent aux mêmes endroits. Et ça s'appelle
Barkhane. On a créé un grand machin dans lequel on a mis des choses préexistantes.
Exactement.
Donc.
Et avec des limites extrêmement floues sur, à la fois sur les territoires et sur la durée. Parce qu'on sait qu'il y a eu des textes qui prévoyaient l'assurance des militaires au cas où ils étaient tués, blessés, etc., qui disaient qu'ils étaient susceptibles d'intervenir en Algérie, en Libye, dans d'autres pays où la France n'est officiellement pas présente. Donc déjà, l'opération Barkhane couvre l'ensemble de l'arc sahélien en Afrique. Et par ailleurs, l'ennemi désigné, c'est les groupes terroristes. Ce qui veut rien dire, en fait, ce qui n'a pas de définition précise, et qui, on pourra toujours trouver un nouveau groupe terroriste à combattre sur place. Et d'ailleurs, les hauts gradés français dans les médias disent « Ah, on est là pour durer, on est là pour longtemps, on est là pour minimum 10 ans ». Alors, sachant que, d'habitude, ils mentent sur la durée des opérations et qu'ils disent « On va rester là un an ou deux », il reste facilement 5 ans, etc. Là, ils disent on est là minimum pour 10 ans et contre un ennemi qui n'est pas défini. On n'a pas nommé un groupe, on n'a pas nommé un... Et par ailleurs, l'histoire de toutes les guerres contre le terrorisme depuis 2001 montre que, clairement, toutes les guerres dites contre le terrorisme n'ont fait... Enfin, ça a été quelque chose qui s'entretient lui-même. C'est-à-dire qu'avec ces guerres, on continue d'aggraver les conditions matérielles de vie des gens. Et le niveau de violence s'aggrave partout, et ce qui fait qu'en fait, les conclusions des guerres, par exemple, des études sur les guerres des États-Unis, sont qu'ils ont généré, entre guillemets, du terrorisme. Je mets des guillemets parce que c'est une définition compliquée. Et c'est la même chose pour la France. Sur l'arc sahélien, elle est là pour minimum 10 ans sur des territoires gigantesques. A priori, c'est juste le moyen de rejustifier ce redéploiement, parce que même sous Sarkozy, il y avait eu un léger, très léger retour en arrière. Et sous Hollande, c'est assumé.
Sarkozy, il y avait eu un léger retour en arrière sur le déploiement militaire en Afrique. Hein. Mm. Voilà. Et là, on peut en toucher un mot vite fait. Il y a eu aussi, la guerre au Mali a permis un lobbying de l'état-major auprès des autorités, on va dire, élues. Pour revenir en arrière, quoi, hein, c'est-à-dire revenir à une vraie implantation des militaires en Afrique.
Ouais, voilà, c'est, dans l'état-major, il y a une idéologie qui est très forte, sous plein d'aspects. Enfin, on peut en parler aussi sur le sécuritaire en France. Mais en ce qui concerne les guerres à l'extérieur, il y a vraiment... dans l'organisation même structurelle du ministère de la Défense, il y a l'Afrique et les restes du monde. Quand Sarkozy a dit « Moi, je veux diminuer les effectifs en Afrique pour les redéployer vers le Moyen-Orient, etc. », il y a eu levée de boucliers, prise de parole dans la presse des états-majors qui veulent garder cette mainmise sur l'Afrique. Quoi. C'est vraiment... les corps d'armée sont toujours structurés selon des bases des corps d'armée, des armées coloniales, des armées d'Afrique, etc. C'est vraiment hyper présent dans tout le folklore, des chants, tout, à tous les niveaux, on retrouve cette culture de la colonie et de la domination sur l'Afrique dans l'armée. Quoi. Et pour eux, c'est inconcevable qu'on lâche l'Afrique. Et pour être cynique, je dirais qu'ils ont raison. C'est-à-dire que sans cette domination-là, la France n'a pas à se rendre puissance. Et pour l'industrie de l'armement, c'est intéressant, mais en fait, finalement... tout le monde y trouve son compte dans la société française, presque. Mais parce que l'armée a réussi à justifier ses budgets. Les politiciens, on l'a vu dans certains cas de rétrocommission, trouvent des moyens de financement de leur parti.
Et oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, ça. C'est qu'aussi, dans ces ventes d'armes, il y a des rétrocommissions.
Ouais.
Il y a aussi de l'argent qui revient en France et qui intéresse nos politiciens tout particulièrement.
Mais en plus de ça, on voit des syndicats qui défendent l'emploi dans l'armement. On voit sur le cas d'AZF, le positionnement de certains syndicats, ça a été intéressant. Il y a des chercheurs américains qui ont montré que même les gouvernements de gauche avaient plus tendance à sauvegarder les budgets de défense en les maquillant sous des politiques sociales de maintien et de création de l'emploi. Et donc, ouais, objectivement, il y a un paquet de couches de la société en France qui ont tout intérêt à ce qu'on continue à faire la guerre, parce que beaucoup de gens y trouvent leur compte, quoi.
Et oui, le système se tient. Tu parlais de maquillage, il y a aussi celui de l'aide au développement. Est-ce qu'on peut en toucher un mot ?
Ouais. donc l'aide au développement, c'est quand on dit le mot, c'est toujours un truc qui sonne un peu positivement. C'est on va aider à construire des puits, etc., à régler la faim dans le monde, en Afrique. Voilà. En réalité, ce qui est comptabilisé dans l'aide au développement, il y a quelques aides à des ONG qui peuvent avoir une action humanitaire dont il y aurait beaucoup à dire par ailleurs. Il y a aussi des fois les dépenses de sécurité qui sont considérées là-dedans. C'est-à-dire que quand la France aide, entre guillemets, à former des gendarmeries, des armées alors eux, ils appellent ça renforcement des capacités de l'État ou un truc comme ça, mais qui en réalité ont des objectifs soit antiterroristes, soit de contrôle des migrations, c'est comptabilisé ces budgets-là dans l'aide au développement. Quand la France va financer la construction d'une infrastructure type pont, autoroute, enfin route plutôt, etc., ça va être comptabilisé aussi dans l'aide au développement, sachant que derrière, c'est la plupart du temps des entreprises françaises qui vont avoir les marchés. Donc Bouygues, Bolloré, et puis dans les services aujourd'hui, Orange, qui a un monopole énorme dans l'Afrique de l'Ouest, voilà. Donc en fait, l'aide au développement, c'est juste un budget qui permet de renforcer, qui sous un verbiage très 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 positif, permet de renforcer le capitalisme français et puis d'autres réseaux plus personnels et des réseaux militaires.
Oui, tiens, on peut donner juste deux petits chiffres parmi plein d'autres, trois petits exemples sur... alors là, on ne parle pas d'armement, pas directement, mais c'est les intérêts industriels, hein, comme on dit, de la France en Afrique. Il y a Areva au Niger, évidemment, qui tire une bonne partie de son uranium depuis sa base d'Arlit. Il y a Total, dont 31% de la production, de sa production vient d'Afrique, pas seulement d'ailleurs dans les anciennes colonies, hein, Angola, Algérie, Gabon, Nigeria. Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a aussi des pays anglophones là-dedans. Et puis, tu l'as dit, il y a Bolloré, hein, dont on entend souvent parler, qui est le leader du transport et la logistique en Afrique, c'est-à-dire qu'en fait, il a les ports, hein, donc Abidjan, Tema au Ghana, Libreville au Gabon, etc. Voilà. Pour terminer, est-ce que tu nous dirais pas un petit mot aussi d'un conflit dont on a beaucoup parlé, celui de Centrafrique, l'intervention en Centrafrique ?
Ouais. on vient de consacrer un livre à cette guerre qui est sorti chez Agon cette année. En fait, la France, c'est pareil, elle a toujours été présente en Centrafrique. C'est un pays où l'État est très faible. Il n'est pas très bien organisé et pas très bien déployé sur le territoire, et où de tout temps, en fait, l'armée française a été un co-gestionnaire du pays. Elle est présente depuis l'indépendance, depuis la colonisation. Et puis, c'était intéressant de voir. Alors, du coup, là, ça ne rentre pas dans les justificatifs sur l'antiterrorisme, mais c'était pour enrayer un conflit ethnique. Un conflit, même, ils ont dit un risque de génocide. Alors, ils ont compris depuis le Rwanda que tout le monde était sensible à ça. Et ils ont dit, là, c'était l'argument massue. Il faut qu'on intervienne. Si on n'intervient pas, il y a un génocide. Et d'une certaine manière, ça a été une prophétie un peu autoréalisatrice parce que, quand l'armée française est intervenue, elle est intervenue pour désarmer seulement une des deux parties. L'autre partie, donc, était les Séléka, renvoyés à une identité musulmane. En réalité, c'est des ressorts politiques, c'est pas du tout des ressorts religieux qui se jouent là-bas, mais ça l'est devenu. Notamment en désarmant une seule des deux parties et pas l'autre. Il y a eu tout un tas d'exactions de la part des gens qu'on n'a pas désarmés contre les musulmans. Et le truc s'est envenimé, ça a participé de tout ça. C'est un peu long, c'est un sujet à part entière.
Le bouquin aux éditions Agon, son titre ?
La Centrafrique, l'histoire d'une domination française, un truc comme d'accord. Ça. Ouais.
Bon, il y aurait encore beaucoup à dire. Est-ce que tu peux nous donner peut-être le contact, le site web de survie ?
Ouais, Toulouse, c'est survie31.over-blog.com. Ouais, je sais plus. Enfin bref.
Survie 31 donc. Ouais, ouais.
Et puis au niveau France, survie.org. Et voilà. Et puis donc voilà, redire que une des pistes pour lutter contre tout ça, selon nous, c'est de soutenir les luttes qui ont lieu sur le continent africain, de leur donner la parole, de leur donner
de les visibiliser déjà.
Les visibiliser, ouais. Voilà. Il y a plein d'autres manières de lutte à inventer aussi. Et donc en ce moment, ces deux dernières années, par exemple, il y a eu une lutte victorieuse contre le système France-Africain au Burkina. Les choses sont plus compliquées depuis, mais en ce moment, le peuple gabonais qui est en train de se battre contre un régime dynastique, c'était le père et maintenant le fils.
Oui, le régime Bongo.
Ouais. Voilà, qui essaie de se maintenir par le sang, dans le sang. Quoi, les gens sont confrontés à ça. En ce moment, à Toulouse, plusieurs fois par semaine, il y a des manifestations de Gabonais ou franco-gabonais, gabonaises, à Place du Capitole. On leur donnera la parole mardi, donc dans notre émission. Voilà, je pense
à 20h, hein.
Voilà.
Décolonisons donc. Merci Mathieu. On va continuer cette longue journée quand votre ville fait boum. À 18h55, on ouvrira la partie industrie et ville. On parlera de l'urbanisme. Ce sera avec Jamal El Arch de l'association ESMA. Avant, il y aura à 18h35 un concert, un Fidel Castro. Fantasque variété, voilà, écoutez ça. Et puis maintenant, après une petite vignette, un débat mouvant. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un débat mouvant, restez à l'antenne. Ce sera animé par Diane et Marie de la SCOP d'éducation populaire Vent Debout. Vous êtes toujours sur Canal Sud.
11 mars 2011, Fukushima, Japon, industrie nucléaire. Suite à un séisme, 3 des 4 réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi explosent et prennent feu. Les tentatives de l'exploitant pour contenir la catastrophe provoquent le rejet de quantités massives de produits radioactifs dans l'atmosphère et dans la mer pendant plusieurs années. Cette catastrophe est considérée comme le deuxième accident nucléaire le plus grave de l'histoire.
11 juillet 2011, Zigi, Chypre, industrie militaire. 98 containers de poudre explosent, 13 personnes meurent, 62 sont blessées et la centrale électrique de Lille est hors service pendant plusieurs jours.
29 octobre 2011, Hutchinson, États-Unis, industrie agroalimentaire. Une explosion de poussière de farine dans l'ascenseur d'un moulin à grains tue 4 personnes et en brûle grièvement 4 autres.
20 janvier 2012, Burns Lake, Canada, industrie du bois. Un incendie et une explosion dans une scierie provoquent la mort de 2 personnes et en blessent 20 autres.
4 mars 2012, Brazzaville, Congo, industrie militaire. L'explosion d'un dépôt d'armes suite à un court-circuit cause la mort de 282 personnes et des blessures à plus de 2300 autres. Elle détruit également des milliers d'habitations.